Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet ô combien important chez les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et comme tu l'as vu certainement dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler du fameux syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur qui je pense a concerné de près ou de loin tous les entrepreneurs à un moment donné et peut-être encore aujourd'hui. Le syndrome de dépréciation de soi, comme on l'appelle aussi. Et j'avais vraiment envie de faire ce podcast, cet épisode, bah justement pour parler de ce syndrome de l'imposteur et surtout pour parler de c'est quoi en vrai le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, on en entend parler partout. Il se dit pas toujours des trucs complètement justes là-dessus. Et puis voilà, des fois, on peut l'utiliser... un peu en abus de langage, par facilité, donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un épisode sur ce qu'est concrètement le syndrome de l'imposteur. Évidemment, comme tu t'en doutes, c'est clairement un des motifs les plus récurrents de venue en coaching, de consultation en coaching. Donc on me le demande énormément, des fois ça l'est vraiment, des fois ça n'est pas un syndrome de l'imposteur, et j'ai aussi plein de gens qui viennent pour des problématiques en... autres, tu vas voir notamment lesquelles, et qui en fait derrière ces problématiques, c'est l'arbre qui cache la forêt, derrière ces problématiques il y a en fait un syndrome de l'imposteur qui peut se cacher, on va dire, un petit peu dans l'ombre. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, j'espère que cet épisode sera pas trop long. Dans tous les cas, comme ça risque d'être assez dense, tu retrouveras dans la description du podcast ou dans la description de l'article de blog, si tu es sur le site de Bien dans ta boîte, le sommaire, en fait, de cet épisode avec les timers pour que tu puisses aller à ce qui t'intéresse ou y revenir ou pas te perdre si t'interromps entre-temps, etc. Parce que je vais, du coup, dire beaucoup de choses. Mais voilà, ça me tient beaucoup à cœur de mettre un peu les choses au clair avec ce syndrome de l'imposteur pour qu'on arrête de l'utiliser à tort et à travers, pour que si tu te retrouves dedans, tu puisses potentiellement trouver des mots à ce que tu traverses et évidemment pour... souligner le fait de vous faire accompagner si c'est le cas, parce que le syndrome de l'imposteur il peut être relativement très pénible à vivre. Si tu en souffres, tu le sais, et si tu en doutes encore, eh ben, tu vas t'en rendre compte dans cet épisode. Alors, de quoi on va parler? Eh ben, évidemment, je vais prendre le temps quand même de définir ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Et après, je voudrais qu'on parle du lien avec les émotions, de parler de l'impact de ce syndrome de l'imposteur au quotidien. Et ce dont je veux te parler le plus, c'est surtout des ce qu'on appelle les 6 caractéristiques associées en symptomatologie à ce syndrome. On parlera un tout petit peu de stratégie d'auto-handicap et de stratégie de présentation de soi. Et puis évidemment, à la fin, bah, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve dans cette situation? Avant d'attaquer, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte. À l'heure où je te parle, on est un peu plus de 500 entrepreneurs, futurs entrepreneurs, à s'entraider et à co-construire nos réussites, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et j'attaque sans plus tarder cet épisode sur le syndrome de l'imposteur qui, à mon avis, sera déjà suffisamment conséquent. Alors, c'est quoi concrètement le syndrome de l'imposteur? L'idée de cet épisode, c'est vraiment le connaître pour mieux le comprendre et s'emparer de cette problématique. Donc, le syndrome de l'imposteur, comme je disais, qu'on appelle également le syndrome de dépréciation de soi, on considère que ce syndrome il concerne une personne qui se voit comme incompétente, malgré sa réussite tangible dans différents domaines de sa vie. On réunit tout ça pour résumer, on va dire, le syndrome de l'imposteur sous le sigle IMP. Donc I, c'est l'impression de tromper, c'est-à-dire que la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur a l'impression de tromper son entourage, de ne pas être à la hauteur, etc. Le M, c'est pour la mauvaise attribution, c'est-à-dire que la personne va attribuer ses réussites à des causes externes, je reparlerai de ça plus tard, et le P, c'est pour la peur d'être démasqué. Donc voilà, cette personne souffrant du syndrome de l'imposteur a une crainte, voire même une panique, d'être démasqué. Selon les auteurs et selon la façon de voir les choses en psycho, on a différents moyens de considérer qu'il y a un syndrome de l'imposteur ou non. Il y a certains auteurs qui considèrent qu'il faut ces 3 critères-là indissociables pour caractériser un syndrome de l'imposteur. Donc il faut et l'impression de tromper, et la mauvaise attribution, et la peur d'être démasqué. S'il manque un des 3, c'est pas un syndrome de l'imposteur. Il y a des auteurs, je précise, qui sont pas forcément d'accord avec ça, qui sont, on va dire, un peu plus nuancés, mais je t'en reparlerai un peu après. Voilà, donc ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une incapacité à internaliser les succès. Ce syndrome de l'imposteur, il réunit 6 caractéristiques dont je te reparlerai tout à l'heure, mais déjà pour te les citer, ce qu'on appelle le cycle de l'imposteur, le besoin d'être reconnu, l'aspect Superman, Superwoman, l'aspect de la peur de l'échec, de la peur du succès et le dénigrement des compétences. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est le lien avec les émotions, puisqu'il y a un lien évident entre le syndrome de l'imposteur et le stress. Donc, une situation stressante, elle se caractérise par 4 choses qu'on réunit sous l'acronyme CINE, comme cinéma, c'est-à-dire C-I-N-E. Le C, c'est pour le contrôle faible, c'est-à-dire que la personne a l'impression d'avoir un faible contrôle sur les situations, et surtout, ce qui est assez caractéristique, c'est une faible tolérance à l'ambiguïté. Ce qui m'amène directement au deuxième point, le I pour imprévisibilité, parce que justement cette impression de grande ambiguïté et cette faible tolérance à l'ambiguïté fait que la personne va, dans le syndrome d'imposteur, souvent mettre en place des stratégies d'auto-handicap qui permet d'augmenter la prévisibilité des situations. Je m'explique. Si par exemple j'ai une situation qui est stressante parce que je dois rendre un dossier à mon boss ou parce que je dois mener à bien une super mission, super bien payée avec un super client, si je me croche pas et si je rentre dans les stratégies d'auto-handicap que tu connais peut-être sous le nom d'auto-sabotage, du coup, en fait, je rends plus prévisible l'échec. Et donc, si c'est plus prévisible, quelque part, c'est moins stressant. Troisième chose, c'est le N, c'est la nouveauté, c'est-à-dire que dans le syndrome de l'imposteur, il y a une anticipation anxieuse face aux tâches qui sont nouvelles, et ils ont tendance à percevoir et à vivre les situations qu'ils connaissent déjà comme des situations nouvelles. Le dernier de l'acronyme, c'est le E pour ego menacé, c'est-à-dire que les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur ont la plupart du temps de très hauts standards de réussite pour justement prouver leurs compétences. Donc il y a une peur de l'évaluation, et puis il y a un très très fort besoin de paraître intelligent ou intelligente. Donc la question de l'évaluation, je m'attarderai pas trop dessus parce que je peux pas évidemment parler de tout, mais c'est quelque chose qui est assez prégnant dans le syndrome de l'imposteur. La peur de l'évaluation, c'est assez prégnant. Alors un truc qu'on me dit souvent, que j'entends souvent et que je lis souvent dans l'entrepreneuriat, c'est « ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est normal au début ». Alors, oui et non. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, c'est le vrai, entre guillemets, syndrome de l'imposteur complet, là, dont je te parle aujourd'hui, toutes les personnes ne l'ont pas, heureusement. Il y a une différence entre être un peu stressé à réaliser une tâche et avoir carrément le syndrome de l'imposteur, tu vois, c'est ça que je voulais te dire au début, par abus de langage. Tu vois, c'est comme dire de quelqu'un qui vit un stress que c'est quelqu'un qui a un trouble anxieux. Non, évidemment qu'il y a plein de personnes qui sont stressées au quotidien et qui n'ont pas des troubles anxieux. Et là, c'est un peu le même truc, quoi. C'est qu'il y a une différence entre, au début, être stressé quand tu te lances à ton compte, ce qui est tout à fait normal, et carrément avoir un syndrome de l'imposteur. En revanche, il est vrai que ce syndrome de l'imposteur se manifeste particulièrement dans les étapes de transition de la vie, puisque du coup, il y a une acquisition des nouveaux rôles, et comme on l'a vu avant, une anxiété, une imprévisibilité, blablabla. Ce sentiment, il est passager, mais effectivement, il peut s'intensifier au fur et à mesure du parcours, en l'occurrence professionnel. Ce syndrome de l'imposteur, il n'est pas sans conséquences. Je pense aussi que la difficulté, à force d'en parler par abus de langage, comme je te disais tout à l'heure, c'est que du coup, il y a une espèce de tolérance au syndrome de l'imposteur et de... merde, je trouve pas ce que je veux dire. De désinvolture, si tu veux, genre, ouais, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, ça peut être extrêmement pénible à vivre pour la personne et aussi également très pénible à vivre pour l'entourage. Ça a un impact non négligeable sur l'entourage. Voilà, ce syndrome de l'imposteur, dans ses formes les plus fortes, si je peux dire ça comme ça, il peut être vu comme une forme d'anxiété sociale, en fait. Donc il faut pas dénigrer, si vous avez affaire à des personnes, ou si vous êtes évidemment vous-même, mais si vous avez affaire à des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas dénigrer leur peur et il ne faut pas dénigrer leurs doutes, parce que c'est extrêmement pénible pour elles, en fait, à vivre. Alors je ne dis pas de rentrer, d'alimenter ses peurs et ses doutes, bien entendu, mais voilà, ça ne sert à rien de dire à ces personnes « Ah, ça va, c'est bon, arrête, t'inquiète pour rien. » Elle le sait. Elle le sait qu'elle exagère, mais c'est comme ça. Et donc j'en arrive à ces fameuses 6 caractéristiques associées au syndrome de l'imposteur, avec le cycle de l'imposteur, très important, la peur d'échouer, la peur de réussir. Ça peut paraître un peu bizarre, souvent les gens me disent « Ah bon, on peut avoir peur de réussir », mais oui. Le besoin d'être reconnu, le fait que ça va se généraliser dans tous les domaines et le dénigrement des compétences. Le cycle de l'imposteur, c'est vraiment super, super, super important. En fait, c'est l'idée que les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur vont devoir mettre en place un certain nombre d'actions et d'attitudes pour accomplir leurs tâches. Comme je disais tout à l'heure, on va leur assigner une nouvelle tâche, ils vont avoir l'anticipation anxieuse, ils vont douter, ils vont être inquiets, ils ont peur de l'évaluation, et de toute façon, ils se disent qu'ils ne feront jamais aussi bien que les autres. Il y a deux solutions. Soit ils vont se surpréparer et travailler comme des dingues pour gérer cette tâche, soit ils vont procrastiner. Procrastiner, suivi évidemment d'un travail très excessif à court terme. Ils vont réussir, puisque soit ils auront travaillé très fort très longtemps, soit ils auront mis vraiment le triple paquet sur les derniers moments, donc ils vont réussir, ils vont être félicités pour ça. Sauf que, c'est là que tu vas voir le cercle vicieux, comme il y a un syndrome de l'imposteur, quand ils sont félicités, ça augmente le sentiment de tromper plutôt que d'augmenter la confiance, puisqu'il y a une incapacité à internaliser la réussite et il y a une négligence de sa performance. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ils se dénigrent, ils ont encore plus la sensation de se tromper, donc ça augmente l'anxiété quand il y a une nouvelle tâche, et la nouvelle tâche va générer de l'anxiété. Face à l'anxiété, ils vont procrastiner ou ils vont travailler comme des dingues. Ils vont réussir, ils vont avoir des compliments, ils vont les dénigrer, blablabla. Et en fait, cette notion de cycle de l'imposteur, c'est hyper fondamental. Et il y a une forte notion de superstition, en fait. C'est-à-dire que dans le syndrome de l'imposteur, la superstition, elle est très importante. C'est qu'ils considèrent que la réussite n'est possible que si le cycle est maintenu. Tu sais, c'est comme par exemple si tu as l'habitude, j'en sais rien, moi, avant chaque rendez-vous client, de porter ton chemisier blanc, par exemple, le jour où tu pourras pas le mettre parce qu'il sera attaché ou pas repassé ou j'en sais rien, tu vas commencer à psychoter et à te dire « Ah putain, j'ai pas mon chemisier » et du coup ça a pas marché, etc. Ça peut être assez prégnant dans le syndrome de l'imposteur. Par exemple, ils peuvent considérer que c'est le travail frénétique qui leur permet de réussir, tu vois le truc, et que du coup, s'ils ne travaillent pas comme des bourrins, ils ne vont pas réussir. Ce qui est hyper contradictoire, puisque du coup, ils n'ont jamais vraiment l'impression de réussir aussi bien. Donc pour moi, il y a vraiment deux mots-clés à retenir dans l'histoire du cycle de l'imposteur, c'est la superstition et la contradiction. On va en reparler après de la contradiction. Donc tu vois, ils vont mettre en place par exemple un travail excessif, et du coup le cycle est bouclé grâce à ça, et donc ils se disent qu'il ne faut surtout pas que le cycle s'arrête. Par exemple, une manière de manifester cette superstition, ça peut être de dire « si je suis trop confiant, je risque de tout perdre ». Ça, c'est une cognition superstitieuse, tu vois. Là, j'ai eu un coup de bol, si j'y crois un peu trop, je vais tout perdre, en fait. C'est ça, en fait, la question de l'attribution externe et de l'attribution interne, c'est qu'ils vont attribuer leur réussite à des causes externes qui ne dépendent pas d'eux, et souvent, en plus, qui sont instables. L'exemple typique de l'externe et instable, c'est la chance. J'ai eu de la chance, c'est quelque chose d'externe, ça dépend pas de toi, et c'est instable, c'est-à-dire c'est arrivé une fois et rien ne te dit que ça ne va jamais que ça va revenir, justement. Donc du coup, s'ils procrastinent et qu'ils réussissent, ils vont se dire j'ai eu de la chance, donc c'est externe et c'est instable. S'ils travaillent comme des dingues et qu'ils réussissent, c'est dû à leurs efforts, donc certes c'est interne, mais c'est instable, parce que ça dépend de cette capacité à travailler comme un malade. Et quand ils reçoivent un feedback, ils perçoivent ça comme une surestimation de leurs compétences, et donc du coup, le feedback, il est externe, parce qu'il ne dépend pas de vous, et il est instable. Parce qu'il arrive une fois, rien ne dit qu'il reviendra. Donc du coup, ça entretient le cycle. Donc cette très forte superstition, effectivement, tu la retrouves, comme je viens de te dire, dans la procrastination. La procrastination, elle sera très très souvent répétée, même si elle n'apporte pas d'éléments positifs, et dans la suractivité qui vient, justement, compenser la procrastination. C'est pour ça que je te disais au début, tu peux très bien avoir des gens, j'en ai, qui débarquent en coaching avec juste, entre guillemets, un problème de procrastination, et donc ils viennent pour de la productivité. Et en fait, c'est en creusant que tu te rends compte qu'en fait, cette procrastination, elle est dans un cycle complet, et qu'en fait, c'est pas la procrastination le problème, c'est le syndrome de l'imposteur. J'en arrive sur cette deuxième caractéristique qui est la peur de l'échec. Donc, ça tu connais, hein, je pense, la peur de l'échec, ça parle quand même relativement de soi. ça va amener, comme on disait au début, bah, par exemple, la peur de l'évaluation, donc ils vont éviter les situations d'évaluation. Ça peut être également une intégration en fait du statut de bon perdant qui permet un peu de limiter la casse, si je peux dire ça comme ça. En fait, il y a vraiment un effet que c'est pas un échec, c'est je suis dans l'échec. Ce qui est complètement différent, bien entendu. Donc voilà, l'échec, il est intolérable, il est internalisé, du coup, c'est forcément eux, et il est généralisé, donc ça va amener, par exemple, à refuser des tâches qui sont jugées trop risquées en termes de risque d'erreur ou d'échec, justement. Donc, dans l'entrepreneuriat, typiquement, tu vas peut-être refuser des missions parce que t'es persuadé que, de toute façon, c'est trop risqué, tu risques de te planter, donc tu le prendras pas, parce que si tu échoues, c'est absolument catastrophique, quoi. À l'inverse, tu vas avoir la peur et ou la culpabilité de réussir. Donc les personnes qui ont peur du changement que peut entraîner cette réussite, la peur éventuellement du rejet des autres ou de la jalousie des autres, de générer de la jalousie, la crainte de faire mieux que quelqu'un qu'on admire par exemple, et la pression de se dire si je réussis là, il faudra que je fasse toujours mieux qu'avant. Donc ça, voilà, c'est quand je te parlais tout à l'heure de contradiction, c'est très présent parce que à la fois ils veulent prouver leurs compétences et à la fois ils ont peur de réussir. Ensuite, il y a l'aspect du besoin d'être remarquable et du besoin d'être reconnu. C'est-à-dire que réussir ne sera jamais suffisant parce qu'il y a trop de risques d'être démasqué. Donc ils auront besoin d'être le meilleur et d'avoir une reconnaissance de leur pair. Évidemment, il y a une très très grosse notion de perfectionnisme dans le syndrome de l'imposteur qui peut être très importante envers eux-mêmes, mais aussi dans l'image qu'ils vont renvoyer aux autres. Le syndrome Superman, Superwoman, c'est « je veux tout réussir parfaitement, puisqu'il faut que je prouve mes compétences ». Donc ça, c'est vraiment lié à l'aspect des hauts standards en fait de réussite, ce qui explique que le syndrome de l'imposteur, il peut démarrer dans un domaine particulier, par exemple dans le domaine professionnel, et qui peut après se transmettre et venir contaminer d'autres domaines de la vie, comme par exemple la sphère familiale, par exemple. Et ça a donné des personnes qui veulent tout faire bien, qui vont avoir du mal à demander de l'aide parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont parfaites, quoi. Évidemment, ce problème-là, dans l'entrepreneuriat, on le retrouve tout le temps dans le syndrome de l'imposteur, c'est que ça a mené à des gens qui veulent tout faire, tout bien, correctement, blablabla, qui ont du mal à demander de l'aide, et donc, problème de priorisation des tâches, problème d'organisation, problème de gestion du temps, et la difficulté à refuser, du coup, certaines demandes, par définition. Il y a l'aspect du rejet de ses compétences et d'ignorer les compliments. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile et qui, du coup, peut être très difficile pour l'entourage, en fait, parce que, du coup, si tu fréquentes quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, ça peut être pénible pour toi, tu te dis « putain, mais je lui fais toujours des compliments », et la personne est toujours là à dire « mais non, mais hein, t'abuses ». Et peut-être, des fois, t'as juste envie de lui dire « putain, mais vas-y, là, ton travail, il est super, je t'ai dit que c'était super, accepte-le, quoi ». Mais dans le syndrome de l'imposteur, le refus, il est sincère, c'est-à-dire que c'est pas de la fausse modestie, comme on peut avoir des fois de dire « ah, non, mais c'est gentil, mais j'ai eu un peu de chance », alors qu'au fond de toi, tu sais que t'as assuré, tu vois. Là, il y a une vraie sincérité du refus, c'est pas de la fausse modestie. Et en fait, ça vient, cette capacité à accepter les compliments, ou cette difficulté à accepter les compliments, ça vient justement du mauvais processus d'attribution dont je te parle au début. C'est que comme les échecs viennent de causes internes et les réussites de causes externes, si j'accepte les compliments, je suis malhonnête, en fait. Parce que moi, je le sais, que ma réussite, c'est des causes externes, et qu'en fait, j'ai rien fait. Donc si j'accepte les compliments, je suis malhonnête, quoi. Voilà pour ces 6 caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Donc comme je te disais au début, il y a des auteurs qui considèrent qu'il faut X, 4 ou 5 de ces caractéristiques pour désigner un syndrome de l'imposteur. Il y a ceux qui pensent, comme je te l'ai dit au début, qu'il faut de manière indissociable les 3 sigles IMP, là... la mauvaise attribution, l'impression de tromper et la peur d'être démasqué. Mais déjà, ça te donnera à peu près une idée de est-ce que tu te reconnais là-dedans. Et que peut-être que ça fait des mois ou des années que tu te dis « ah, j'ai un syndrome de l'imposteur » et qu'en fait, en écoutant ce que je te dis, tu te dis qu'en fait, non. Voilà. Peut-être que il y a des petits trucs qui mériteraient d'être travaillés, mais c'est peut-être pas un syndrome de l'imposteur vraiment complet. C'est un syndrome qui peut être vraiment source de souffrance et qui, à mon avis, il ne faut pas nier. Le point que je voulais aussi aborder, c'est la question des stratégies d'auto-handicap qu'on caractérise comme la création d'obstacles ou la revendication de difficultés pour influencer les explications qu'on donne aux résultats. Donc c'est une personne qui va se créer des obstacles ou qui va tout le temps revendiquer des difficultés de santé, des difficultés émotionnelles, des voilà, pour justifier le truc. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ben, elle met ça en place pour, dans l'anticipation d'un danger, pour protéger son estime d'elle-même. On le voit plutôt chez les personnes anxieuses ou timides, mais bon. En tout cas, voilà, la personne cherche à préserver une certaine image des compétences, et donc ça peut se manifester par de l'évitement, par exemple, ça peut se manifester par de la procrastination, ou à l'inverse, une tendance à la préparation excessive, on l'a déjà dit au début, et éventuellement, ça peut se manifester par de la revendication de syndromes psychiques ou physiques, qui, du coup, voilà, servent, entre guillemets, d'excuses, si on peut dire ça comme ça, à la personne pour justifier que... Ce qui est vraiment très très important dans le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas dit également, il y a la question de l'anticipation, etc., mais il y a surtout la certitude de ne pas pouvoir répéter un succès. Donc même quand ils arrivent à internaliser un tout petit peu et à dire « Ouais, bon, ok, peut-être, là j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que j'y ai mis un peu du bien, mais j'y arriverai pas la fois d'après en fait. » Et le dernier truc dont je voulais te parler avant de rentrer dans la partie qu'est-ce qu'on fait, c'est rapidement des stratégies de présentation de soi. Parce que, évidemment, tu t'en doutes, c'est souvent des personnes atteintes par le syndrome de l'imposteur, elles vont être dans l'auto-dépréciation, hein, je t'ai dit, l'autre nom c'est le syndrome de dépréciation de soi, et donc elles vont se présenter, et ça je pense que tu as déjà rencontré des entrepreneurs comme ça, hein, en networking ou quoi que ce soit, qui se déprécient tout le temps. Pourquoi elles font ça? Ben, tout simplement parce que ça diminue l'impact en fait d'une mauvaise performance. Voilà, si je me présente comme quelqu'un de super nul, ben au moins quand je ferai un truc super nul, ben les gens ils seront pas étonnés. À l'inverse, ça permet de diminuer les attentes des autres. Et en contrepartie, ben, si je réussis, ça sera beaucoup plus remarquable quoi. Ceci dit, attention, comme je le dis souvent, en psy, rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est pas binaire, quoi. Et il faut pas tomber dans la facilité d'une explication et dire « Ah ben tiens, cette personne, elle se présente normalement, donc elle a pas syndrome d'imposteur. » Faux. Parce que si le syndrome de l'imposteur est plus faible que ça, la stratégie peut être de dire qu'on se présente de manière positive pour augmenter l'approbation sociale. Parce que rappelle-toi que c'est important pour la personne d'être reconnue. Le regard de l'autre est important dans ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà, je voulais préciser ça pour bien rappeler qu'il ne faut pas tomber dans une facilité d'interprétation et dire « Ah, cette personne n'a pas confiance en elle, elle a un syndrome d'imposteur. » Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme tu l'as vu, il y a plein de caractéristiques, il y a la question de la superstition, il y a la question de l'attribution des réussites, des échecs, etc. etc. Donc il ne faut pas tomber dans le truc facile de dire « Ah, bah t'as vu, cette personne, elle a confiance en elle. » Ou elle donne l'impression d'avoir confiance en elle, donc il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur et que justement, le fait de se présenter de manière positive permet d'augmenter l'approbation sociale. Mais là encore, attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui se présentent de manière positive le font pour augmenter l'approbation sociale, bien entendu. Bon, et alors du coup, le vif du sujet, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est pas le vif du sujet, parce que déjà tout ça, le fait de connaître et de comprendre comment fonctionne le syndrome de l'imposteur, c'est déjà extrêmement important. Comment on fait si on est touché, si je peux dire ça comme ça? Alors le premier truc, vraiment, c'est, je vous conseillerais de vous faire accompagner. C'est-à-dire que s'il y a un syndrome de l'imposteur qui est plus ou moins fort, en tout cas qui vous pourrit la vie, je vous conseille de vous faire vraiment accompagner, coach, thérapeute, psy, voilà, personne dans laquelle vous avez confiance et qui saura prendre en charge ce syndrome de l'imposteur, parce que ça peut être une réelle souffrance pour vous, ça peut être une réelle souffrance pour votre entourage, et voilà, c'est pas un truc aussi facile que juste de se dire « Ah, allez, prends confiance en toi, quoi. » Voilà, on l'a vu, c'est plus complexe que ça. Il y a la question de l'attribution, il y a la question du regard de soi, il y a la question de l'acceptation, il y a la question de l'autre, il y a la question de comment je vois l'intelligence, comment je vois la réussite, comment je vois l'échec, blablabla. Donc, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par une personne, surtout en laquelle vous avez confiance, avec laquelle vous entendez bien, puisque l'alliance entre l'accompagné et l'accompagnant, évidemment c'est toujours très important, mais particulièrement là, ça sera très 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 important. Donc je fais une parenthèse pour les éventuels collègues thérapeutes, psy, machin, bidule qui m'écoutent, d'être très vigilants, mais vous le savez j'imagine, à l'alliance, notamment dans le syndrome de l'imposteur, pour ne pas justement casser cette alliance et ne surtout pas la casser en insistant sur en faveur du changement. Bien sûr qu'il faut faire prendre conscience, changer de point de vue, etc., mais peut-être ne pas l'imposer directement face à la résistance de l'accompagner parce que ça peut diminuer l'alliance. Bref. En tout cas, parce que je sais que la majorité de ceux qui m'écoutent sont plutôt pas des accompagnants mais des accompagnés, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, en tout cas de ne pas rester avec ce truc tout seul parce que c'est vraiment, vraiment pénible à vivre et malheureusement si vous en souffrez, vous le savez, en l'occurrence dans l'entrepreneuriat, ça peut vous bousiller un business en long, en large, en travers. Si vous n'êtes pas non plus au point de vous faire accompagner parce que pour x ou y raison, on s'en fiche, ça vous regarde. Que vous avez quelques difficultés sans pour autant que ce soit absolument pénible à vivre au point de vous faire accompagner. Même si ceci dit, je vous conseille de vous faire accompagner même si c'est pas pénible à vivre, ça évitera que ça prenne trop d'ampleur, mais bref, peu importe. Le premier truc, à mon avis, enfin le premier, c'est pas une priorité, mais c'est de diminuer vos standards de réussite, ce qui s'accompagne un peu de la vision qu'on a de l'intelligence. Souvent, dans le syndrome de l'imposteur, on a une vision de l'intelligence qui est stable et qui est figée. Ce n'est pas le cas, l'intelligence elle évolue avec le temps, on peut apprendre, on peut la moduler, on peut l'améliorer, blablabla. Donc voilà, de diminuer un peu ses standards de réussite et de ne pas voir l'intelligence comme quelque chose de stable et figé, en mode je ne suis pas intelligent, c'est mort, c'est foutu, il n'y a plus rien qui peut changer. Ensuite évidemment de travailler la modification de l'attribution des réussites et petit à petit de travailler à faire le point sur toutes les réussites que vous avez eues et... si vous avez tendance à vous dire ouais mais là j'ai eu de la chance, ouais mais là je sais pas quoi, se dire ok bah oui peut-être que j'ai eu de la chance mais bon en même temps la chance elle est aussi venue parce que je me suis mis à bosser, là, je l'ai souvent dans l'entrepreneuriat, ouais j'ai eu des clients parce que j'ai eu de la chance, bah peut-être en même temps ces clients ils sont aussi venus parce que t'avais lancé ta boîte déjà tout simplement et puis ils sont venus parce que t'as fait un super site internet ou ils sont venus parce que t'as un super compte Instagram ou ils sont venus parce que tu t'es déplacé dans ce networking, ou ils sont venus parce qu'on t'a recommandé, et si on t'a recommandé, c'est peut-être que t'es pas si naze que ça, voilà. Modifier cette attribution des réussites, alors on est d'accord que si vous avez une attribution complètement externe et instable de vos réussites, ne pondez pas des trucs hyper internes et hyper stables au début, il y a fort à parier que vous n'allez pas vraiment y croire. Mais petit à petit, accepter les compliments, se dire que bah si on fait un compliment, peut-être que la personne, elle se trompe pas, en fait, et que c'est vrai qu'en fait j'ai un peu ma part dans ces réussites. Et le dernier point, et pas des moindres, je pense que c'est le plus important de tous, c'est de travailler l'acceptation de soi. C'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important, le syndrome de l'imposteur. J'insiste énormément là-dessus parce qu'on parle par facilité de langage, beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'acceptation. Accepter que j'ai un syndrome de l'imposteur. Accepter que je suis capable de réussir. Accepter les compliments. Accepter que je fais pas tout bien. Accepter que je suis pas parfaite. Accepter que je peux échouer. Accepter que je peux réussir aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce travail d'acceptation de soi, et c'est là notamment que vous aurez peut-être besoin d'être accompagné, parce que c'est pas forcément un travail qui est évident à faire tout seul, mais en tout cas, travailler à l'acceptation de soi et sortir, à mon avis, hein, de cette performance que implique le terme de confiance en soi, comme si c'était une espèce de ligne d'arrivée et que c'est bon, tac, j'ai tout mis en place et c'est bon, maintenant j'ai confiance en moi. Non, c'est une question d'acceptation. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, je sais que vous le savez, mais c'est différent justement de le savoir et de l'accepter en fait. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en as appris plus sur le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. Alors évidemment, c'est pas une demi-heure de podcast hein, qu'on peut aller vraiment dans le détail, mais j'ai préféré faire un podcast entre guillemets pas trop long. Je sais qu'une demi-heure, c'est un peu long pour un podcast, mais voilà, je préférais faire une demi-heure pour donner les bases et puis que t'ailles creuser si tu veux, plutôt que de faire un truc de 2 heures qui assomme tout le monde. Et voilà, donc évidemment, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé et dans lesquelles je suis pas allée en détail, mais déjà ça donne une bonne idée de ce qu'est le syndrome de l'imposteur de manière, on va dire, un peu plus concrète que juste l'idée reçue de syndrome de l'imposteur, c'est un manque de confiance. Non, c'est un peu plus, comme tu l'as vu, compliqué que ça. Donc si tu veux aller plus loin, justement, qu'est-ce qu'on fait? Alors le premier truc, c'est éventuellement de te renseigner si tu veux creuser encore plus le sujet. Moi, il y a un super bouquin donc qui m'a aidé pour rédiger ce podcast qui s'appelle « Traiter le syndrome de dépréciation de soi ». Alors c'est un bouquin de psy, donc je sais pas si ça vaut particulièrement le coup que tu l'achètes si ça t'intéresse pas plus, parce que il y a beaucoup de questions d'exercices à mettre en place, de comment on construit l'alliance, voilà, c'est plutôt à destination des accompagnants. Mais l'avantage, c'est qu'au moins tu sais que c'est quelque chose de sérieux et voilà, très 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 bon bouquin. En tout cas, si tu peux pas l'acheter, peut-être que tu peux l'emprunter à la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Donc très bon bouquin, je te mets les références de ce bouquin dans la description du podcast ou dans l'article de blog associé situé sur mon site pour que tu puisses le retrouver. Je ne mets pas forcément de lien, je verrai si je trouve un lien. En tout cas, je ne mets pas de lien vers Amazon pour des questions de valeur, tout simplement. Mais une fois que tu as la référence du bouquin, tu feras bien comme tu veux. Le deuxième aspect, si tu veux aller plus loin, c'est éventuellement d'être accompagné. Et si éventuellement tu penses que je peux être la bonne personne pour toi, sache que dans les coachings thématiques qui sont maintenant en place sur le site, donc c'est des coachings en 3 séances, c'est vraiment des coachings très très focus, il en existe un justement sur le syndrome de l'imposteur pour t'ôter cette épine du pied, ou en tout cas désamorcer cette épine du pied. Je sais pas si on peut désamorcer une épine, mais après, peu importe. Voilà, tu as toutes les infos, encore une fois, dans la description ou sur mon site onglet accompagnement puis coaching thématique, où tu as les 4 coachings thématiques qui existent, dont le syndrome de l'imposteur, où tu trouveras le détail des 3 séances. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement en 3 séances, avec des exercices évidemment entre les séances, et je t'envoie également des contenus additionnels, notamment des fiches mémo qui te permettent d'avoir toutes ces infos-là au propre et pour toi, etc. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'as plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide à faire connaître le podcast, et éventuellement de le partager, de le transférer à toutes les personnes que tu penses que ça pourrait aider de près ou de loin d'en savoir un peu plus sur ce fameux syndrome de l'imposteur. J'espère que ça t'aura éclairé et aussi que ça donnera peut-être quelques connaissances, si tu ne les avais pas déjà bien sûr, pour reprendre des fois des abus de langage, parce que malheureusement ces abus de langage de « ouais, il n'a pas confiance, c'est un syndrome de l'imposteur », ça peut mener une espèce de désinvolture en fait, parce que le syndrome de l'imposteur, comme je te l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste, ça peut être très très handicapant, très douloureux, et c'est pas juste des gens qui se plaignent, et c'est pas juste des gens qui font pas d'efforts, quoi. Ça peut être vraiment très pénible à vivre, et également pour l'entourage, ça peut amener plein d'autres problématiques, voilà. Donc n'hésite pas à le partager si t'as plu, si tu penses qu'il pourrait aider d'autres personnes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et d'être fidèle à mes contenus. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.